Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 31, avec autour de la table nos chroniqueurs, tout sourire ce soir, vous savez bien pourquoi. Et on commence les présentations avec toi, mon Charles, comment que ça va bien ?
Salut Matt, salut à tous, bah, ça va très bien. Je voulais en profiter pour passer un petit coucou et un gros big up aux Arrows Non-Touch, auquel je participe évidemment. On était en tournoi à Milly-la-Forêt, c'était le tournoi des 10 ans du club, première édition là-bas, et donc c'était très sympa. C'est à l'ouest de Fontainebleau, on passait un très bon moment et on les remercie, c'était un très bon tournoi.
Eh ben, big up à tous, à tous les pratiquants du touch rugby. Allez, en face de toi, un homme fatigué, un homme qui a fait la fête, c'est Jean-Marc.
Exactement. Eh ben, moi, je voulais féliciter tous les supporters, toutes les associations de supporters et tout le monde pour cette grande fête qu'on a eue au Stade de France, hein, et ce magnifique tifo. Dommage, pas très relayé par la télévision, pas assez montré. Un petit coup de gueule quand même contre les supporters niçois qui ont sifflé la 9e minute d'Emiliano Sala.
On revient dessus tout de suite, Jean-Marc. Allez, notre dernier chroniqueur, il est en face de moi, c'est Jérém. Comment tu vas bien, mon Jérém?
Je vais très bien et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonne émission à tout le monde.
Alors, le sommaire, bien sûr, une page football, on va débriefer ce succès des Canaries samedi soir au Stade de France. On revient sur la Ligue 1, ça jouait également les championnats étrangers pour les derniers accessites. Pour la Coupe d'Europe et dans le reste de l'actu, une grande page handball, mais aussi du rugby, du sport méca et plein d'autres choses. Allez, on y va tout de suite, c'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et bien sûr, on revient sur l'événement du week-end. C'était la finale de la Coupe de France au Stade de France. Le FC Nantes, pas favori, affrontait l'OGC Nice. Avec grosse récompense en cas de victoire. Mais avant de parler de ça, on revient sur le match qui avait débuté, Jean-Marc, dans les tribunes. Et c'était bien parti pour les jaunes et verts.
Et c'est tellement rare de voir le Stade de France s'enflammer comme ça et chanter. Souvent, on entend que la Marseillaise. Et là, on avait vraiment une finale à l'anglaise, quoi. On a l'impression que c'était la Cup.
42 000 côté nantais, 24 côté niçois, tout le monde avec des écharpes et des maillots, c'était fabuleux pour l'ambiance.
Exactement, très 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 belle ambiance.
Ouais. Lucien qui était là-bas, un autre chroniqueur, a vécu le plus grand moment sportif et émotionnel de sa vie. Il faut quand même le souligner, il nous l'a dit. Et il en a... Cette ambiance, cette communion, cette victoire.
Et il n'a pas eu sa voix.
Qui
il
nous fait aimer le football surtout, hein, qui nous fait vraiment aimer le football.
Mais c'est dans ces moments-là qu'on apprécie le plus le sport et le football en général. Hein. C'est des moments qui nous font vibrer, qui nous font respirer l'atmosphère des supporters, tout ça, c'est magique. Et que surtout, bah, quand tu es du côté nantais, encore plus aujourd'hui.
Et que dire des 17 000 personnes qui étaient en place au cours Saint-Pierre et Saint-André, qui ont donné de la voix, plus tous les gens qui étaient dans tous les bars.
Les bars, et ceux qui étaient chez eux aussi.
Aussi, oui.
Avec les écharpes.
On les a moins entendus, ceux qui étaient chez eux.
Ouais, donc, allez, on revient sur ce match. Nantes qui prend le match par le bon bout avec, dès les premières minutes, Blas qui se montre dangereux, hein, avec une frappe croisée qui part en corner.
Bah, tout de suite, les Nantais ont su montrer finalement et mettre en place une sorte de densité physique supérieure aux Niçois. Ils ont vraiment tout de suite bien démarré. Et puis, on a là, Ludovic Blas qui fait encore un excellent match et qui fait un très bon début de match, une occasion. Marcin Bulka l'arrête bien, se détend bien sur sa gauche. Mais voilà, on a vu des Nantais qui étaient vraiment beaucoup plus entreprenants dès le début de la première période.
Ces attaquants, notamment. Simon et Colomwani qui font des bons appels et avec leur vitesse qui viennent perturber la défense niçoise. À la pause, on est à 0-0, mais on n'est pas inquiet. Hein. On n'est pas inquiet du dénouement de la rencontre. On a confiance en nos hommes.
Exactement. On a vu Nantes dominateur sur cette première période. Les Niçois ont eu des occasions, mais on a senti vraiment que les Nantais sans doute en voulaient plus. Et forcément, ce sorte de 12e homme des supporters nantais qui était massivement présent au Stade de France pense à jouer dans cette dynamique-là.
Oui, et puis comme au hand, au foot, il faut un goal. Et Jean-Marc, on en avait un côté Nantais en la personne d'Alban Lafont.
Oui, il y avait eu grosse hésitation entre Rémi Descamps qui avait fait toute le parcours Coupe de France et Alban Lafont. Finalement, dans la semaine, Antoine Comboiré a fait son choix et il a bien fait, même si Rémi Descamps est un très bon gardien. On l'a vu sur cette double occasion niçoise où, avec cet arrêt du pied magique d'Alban Lafont.
Ouais, un autre homme en défense qui a fait le job, Nicolas Palois.
Toujours présent, voilà, c'est fidèle au poste. En début de saison, puis l'année dernière surtout, il était moins présent. On a bien vu qu'il avait eu plus des blessures. Et c'est là où on sentait vraiment l'absence de Nicolas Palois, qui est une personne de très fort caractère et qui sait remettre les idées en place, voilà, et qui rend une sorte de dynamique qui pousse l'équipe vers l'avant. Et ça fait du bien. Et c'est là où on voit finalement, c'est un gros moteur de l'équipe.
Et on avait surtout un doute qu'il puisse revenir à son niveau avec l'enchaînement de blessures.
Il était blessé,
match.
Certain âge aussi en plus.
La roulette arrêtée, il nous a tout fait, il nous a fait des trucs improbables. Et l'image que je retiendrai de Palois, c'est quand il prend malheureusement le coude de son coéquipier dans le nez.
Ouais, il est cassé.
Il se retrouve allongé sur le ventre. Et il y a Andy Delors qui vient dire ouais, il perd du temps et tout. Et Palois se relève, le regarde.
Le nez en sang
qui coule. Et là, Delors se retourne et s'en va se replacer. Et c'est là que c'est un vrai guerrier.
Palois et Lafont, il fallait ça derrière pour maintenir le suspense. Début de deuxième, la 46e, fait de jeu. Stéphanie Frappard, l'arbitre de cette rencontre, siffle un pénalty pour les Canaries. Alors, discutable ou pas, les garçons ?
Totalement indiscutable si on en suit les dernières lois qui sont tombées. Depuis le début de saison, et surtout qu'on a rajouté de ça, parce que maintenant, faut vraiment, pour pas qu'il y ait main, faut vraiment que ça soit
collé au corps.
Là, c'est pas le cas. Mais là, elle est pas détournée. Je veux dire, elle ne peut ne pas être collée au corps, mais il faut qu'elle touche
pas,
avant une partie
pas.
Du
et
corps.
Et encore, parce que
t'as relu l'article.
Par exemple, la main de Dembélé face à Marseille. Elle est décollée du corps, elle est pratiquement au sol, et pourtant là, il ne siffle pas pénalty.
Oui, mais elle a la tête tournée, je crois, ou un truc comme ça.
Non, mais c'est en taclant sur un sang.
En taclant. Oui. C'est-à-dire que c'est considéré dans son geste.
Comme un mouvement naturel. Est-ce que la nuance des mains aujourd'hui, c'est finalement cette position naturelle de la main, du bras, qui fait débat. Est-ce que tu peux considérer que la main de Boudaoui est naturelle ou pas ?
Elle n'est pas naturelle. Et surtout, il fait un mouvement de bras au dernier moment pour le descendre, vu la hauteur du ballon. Si tu regardes image au ralenti, tu verras que il fait un mouvement au départ du ballon. S'il n'y a pas de mouvement de sa part, tu peux dire, il a les bras comme ça, il se balade comme ça, on dirait danseuse de l'opéra. Mais il a vraiment son bras qui descend d'un coup, c'est un réflexe d'arrêter le ballon avec son bras.
Donc, en tous les cas,
pour moi, totalement main et tort à ceux qui étaient
pas d'accord. Qui n'a pas été discuté par les joueurs niçois.
Non.
Donc, on va dire que la décision a été entérinée et puis il restait beaucoup de temps à jouer. Donc, c'est certainement pas ça
qui renverse,
Nice de,
ouais,
de,
qui
de,
renverse de... le match. Cependant, ça les met dans une situation un peu compliquée parce que le doute pendant 40 minutes, le doute qui les habite.
Mais c'est ça, au vu en plus de la dynamique niçoise de ces dernières semaines qui ont eu surtout
une
des matchs
mal
à l'arraché. On se souvient face à Bordeaux 1-0, ça a été vraiment des matchs très compliqués. Il y avait moins cette dynamique de milieu de saison où ils étaient deuxième, on voyait vraiment des très bons matchs. Là, ça, c'est vraiment depuis finalement un peu comme la période du FC Nantes, hein, qui était, on voit quand même plus de choses du côté du FC Nantes, plus d'envie, mais ça piétinait un petit peu aussi. Mais là, les Niçois, c'était plus dur dans le jeu et là, on l'a ressenti finalement dans cette finale. Bah, ils étaient moins dedans et les Nantais en voulaient plus. Et forcément, offensivement, ils ont eu des occasions parce que, comme la fameuse double parade d'Alban Lafont, mais ça a été plus dur pour les Niçois et ils ne sont jamais remis. On a bien vu la frustration de ce moment à la fin avec l'altercation Moutoussamy, Jean-Claude Todibo. C'était beau à voir.
Oui, oui, oh, ça fait partie du truc. C'était un peu excessif. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent de la part de Stéphanie Frappard de pas s'emballer et de surjouer l'arbitre et de mettre des rouges aux deux, enfin, ou je ne sais quel
tout
cinéma.
Tout à fait, oui, oui.
Elle a laissé le truc, en gros, les mecs, démerdez-vous, je ne vais pas me jeter dans la mêlée. Calmez-vous entre vous, maintenant, voilà. Bon, et elle était mettre un carton jaune à Jean-Claire Todibo, qui avait lancé le mouvement. Et puis c'est tout, voilà, et ça s'arrête là, et c'était très très bien. Après, bon, on voit que c'est du foot, puisque c'était surtout du combat de regard et
ah bah oui,
ça
mais parce qu'ils savent très bien que si tu mets un coup derrière, tu prends carton rouge, c'est fini. Donc oui. c'est du trash talking, c'est ça. Voilà, c'est...
Bon, derrière ça, il fallait tenir. Nantes l'a fait héroïquement jusqu'à la 95e, jusqu'au coup de sifflet libérateur de Madame Frappard, pour que les Nantais, 22 ans après, reviennent sur les bords de la Loire. Attends. Avec cette belle Coupe de France qui a été présentée donc hier soir, Cour Saint-Pierre.
T'as le dernier titre des Nantais, bah, j'étais pas né. J'étais pas né. Hein.
Entre les deux cours.
Moi j'étais né.
Moi j'y étais en plus. Mais c'était, voilà, on a pu célébrer, c'est magnifique. Et puis surtout, il faut rendre hommage à Antoine Comboiré, qui fait quand même un super travail depuis un an et demi, depuis qu'il a repris le FC Nantes. Il a sauvé le FC Nantes de la relégation dernière et puis là il nous emmène avec, en plus on a souvent dit qu'Antoine Comboiré c'était un coach défensif qui était un coach, on va dire, qui solidifiait sa base mais qui produisait pas
de
forcément de jeu
aussi, hein.
Premier trophée pour le Canac,
deuxième, il avait gagné une Coupe de France avec Paris,
ouais, mais il a dû la partager avec Ancelotti puisque c'était la même année, non?
Non, c'était l'année d'avant.
C'était la demi-saison d'avant.
Voilà, c'est ça.
Exact.
Et là, voilà, il a fait du super boulot, il a su donner de la confiance à des joueurs, faire confiance aux jeunes aussi, comme quant à Merlin.
Exactement.
C'est ce qu'il fallait, et aujourd'hui, en plus, c'est tactiquement, il a très bien joué, parce qu'on a vu que ces derniers temps, il jouait plutôt avec une défense à 4, et il est revenu une défense à 5 pour la finale. Et voilà, il n'y a rien à dire, il a su s'adapter au Niçois.
Grâce à cette victoire, Nantes ramasse un package de 7 matchs.
Exactement.
Trophée des champions.
6 plus 1.
Plus la Ligue Europa l'année prochaine, qualifiée directement grâce à cette la victoire.
Une victoire directement dans les phases de poule.
31 juillet, il faudra prendre l'avion quand même et aller à Tel Aviv.
Exactement.
Pour la petite histoire.
Pour les supporters. Donc si vous voulez, profitez-en pour passer des vacances en Israël et aller voir le match. Et moi, je voulais revenir sur Antoine Comboiré parce que c'est le cinquième doigt de la main nantaise, puisque avant lui, seulement 4 entraîneurs nantais avaient gagné les trophées, les 11 trophées précédents nantais.
Alors, dis-nous qui.
Eh bien, ça avait commencé avec José Arribas, bien sûr, les premiers titres, 65, 66, 66, 67.
Jean-Vincent a rien gagné.
Jean-Vincent, bien sûr qu'il a gagné. L'homme qui avait permis au FC Nantes de rester invaincu à Marcel Saupin pendant 5 ans. C'est toujours un record qui tient et qui va tenir longtemps. C'est le premier à gagner la Coupe de France en 79.
Derrière, face à Sedan.
Exactement. Plus. Face à Auxerre. Du coup, derrière, il y avait. Alors, entre-temps, il avait aussi gagné titre champion de France.
Puis c'est Coco Suedo.
Derrière,
Suedo,
c'est Coco Suedo qui va gagner le titre. Je n'ai plus les dates. Vous allez m'aider. 83, je crois. Et puis, qui fera ses finales perdues. Et puis, bah, évidemment, Coco Suedo, il va aussi gagner 95. Et puis, Reynald Nouex qui gagnera les deux coupes. Donc, contre Sedan en 99. Et Calais en 2000,
c'est
et
ça.
Le titre de champion de France en 2001.
C'est ça.
Donc voilà, être dans ce club des 5, il faut savoir que sur ces 5 personnes, uniquement Jean-Vincent n'a pas été formé au FC Nantes. tous les autres ont un lien de filiation. Et on parlait de l'école nantaise, c'est le digne successeur de Jean Cotesuedo, Reynald de Nouex. Et puis c'est aussi, moi j'ai aimé son discours. Quand il dit à la fin, alors il a remercié plein de monde, hein, justement ses prédécesseurs, et aussi les hommes du Pacifique, comme il les a appelés, je dirais même presque les guerriers du Pacifique, Carambeu, Vahirua, Gob Fenepedj, et tous les autres, Temari. Et j'ai bien aimé quand il dit, bon voilà, on a fait le job, on vous doit plus rien. Mais nous, on a besoin qu'il reste.
Bah c'est ça, là, maintenant la question qui se pose, c'est...
Je pense qu'il va rester.
Il lui reste un an de contrat.
Oui, je pense qu'il va le faire. Même si on sait qu'avec Valdemar Quita, tout peut changer du jour au lendemain. On a eu une petite discussion avec un autre entraîneur du FC Nantes qui ne savait pas s'il allait rester lui aussi. Hein.
Vous savez, sur les 10 dernières saisons, quels sont les 4 clubs qui ont gagné la Coupe de France ?
PSG.
Paris l'a gagné 6 fois. Donc PSG, sur les 10
Rennes.
Dernières saisons, il n'y a que 4 clubs à avoir levé ce trophée.
Rennes,
c'était le dernier en 2019. Donc Nantes en 2022. Et avant, il faut remonter en 2014. Un autre club breton.
Guingamp, c'est Guingamp. Ce que j'allais dire.
Guingamp.
Donc tu vois, 3 clubs bretons.
Et Lyon. Bordeaux en 2013.
Et Lyon en 2012.
Et Lyon en 2012. Dernier titre des Lyonnais, 2012. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de clubs qui gagnent la Coupe de France désormais. C'est un trophée qu'on est heureux de. On est heureux de soulever.
Exactement. Et quand tu penses que Paris en a gagné 14, Marseille a dû en gagner à peu près 10.
Ouais.
Derrière, alors on rattrape, je crois, qu'est-ce que j'ai vu ? Je crois que c'est Auxerre avec 4 titres.
Et Rennes qui est maintenant en sera 3.
Et on est devant Rennes. On s'est séparés de nos voisins rennais. Je pense que les Nantais auront un grand plaisir à présenter la Coupe de France mercredi prochain pour le match contre Rennes à tous les supporters rennais qui seraient tentés de venir. On regrettera que contre Rennes, la FFF avait décidé que, suite à des histoires fumigènes, je crois, la tribune Loire soit fermée pour les 2 derniers matchs. Quel dommage.
Donc on l'a dit, ça nous emmènera au mois de septembre en Europa League, cette victoire en Coupe de France. Par contre, on l'a évoqué tout à l'heure, certainement une formule accélérée puisque la Coupe du Monde démarre en novembre et la préparation va débuter vers le 20 octobre. Donc il va falloir jouer les 6 matchs en accéléré, certainement entre début septembre et fin octobre.
Oui, t'es sûr qu'il n'y en aura pas juste après la Coupe du Monde ?
Bah, après la Coupe du Monde,
généralement non.
Parce que tu sais, il y a une période qui est un peu plus large.
Coupe du Monde, je crois que c'est 18 décembre, hein, la finale. Donc derrière, on va laisser passer les fêtes pour reprendre le championnat. Alors peut-être mettre 2 matchs en janvier. Ouais,
et encore, hein, généralement, c'est pas sûr parce que ça se finit très tôt. Donc, normalement, ils font tous les matchs de poule avant janvier.
Normalement, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comme tu vois, par exemple, le mois des huitièmes de finale de
Ligue des Champions.
Le problème,
c'est qu'il y a tellement de matchs après, les barrages, tout ce qui est barrages, Ligue Europa Conférence, tout ça à passer parce que maintenant, il y a des qualifications directes. Tous les matchs de Ligue Europa Conférence, tout ça à placer, à mon avis,
c'est
compliqué.
Est-ce que ce serait pas l'occasion pour cette année de réduire la période des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui dure un mois et c'est
vrai.
Débile.
My name is not Gianni Infantino.
Oui, voilà.
Mais bon, toujours est-il que ça va nous promettre du spectacle à la Beaujoire parce que on aura des noms ronflants au tirage au sort. Hein. On l'a évoqué là aussi.
Il y aura forcément un gros nom, un très beau nom après derrière.
C'est du Tottenham, du United, on va avoir du Leipzig, on
de la Tottenham Tabergam, ça peut être de l'Ice Rome, ça peut être des très beaux noms.
Nantes a souvent rencontré des belles équipes comme ça. Et Nantes a toujours passé quelques tours, même si. On retiendra qu'en Europe, les meilleures paires, c'est une demi-finale de la regrettée Coupe des Coupes et une demi-finale de Ligue des Champions. Et plus quart de finale. Le meilleur paire, c'est un quart de finale contre l'Inter en 86 en Europa League.
Enfin, ouais.
Anciennement en Coupe de l'UEFA.
Très bien, bon, on s'intéressera à ce tirage. Hein, ça sera début septembre. Allez, on enchaîne avec la Ligue 1 après toutes ces belles paroles. Et on démarre avec... pas avec Rennes, puisqu'ils n'ont pas joué, mais on va démarrer avec le Dauphin, avec Marseille. Marseille qui a été embêté, nos voisins l'orientés.
Oui. Exactement. Après une malheureuse déception en Coupe Conférence League, une élimination face au Feyenoord de Rotterdam. Il fallait se relancer. Hein. Ils enchaînaient aussi avec une défaite face à Lyon à domicile 3-0. Là, ils se sont imposés 3-0 à l'extérieur face à des Lorientais. Malheureusement, forcément, c'est compliqué pour eux. C'est Bamba Dieng, Guendouzi et Gerson qui marquent. Et ça leur permet d'assurer, enfin, pour l'instant, de rester seul deuxième de Ligue 1.
C'est ça. Mais malheureusement, pour Marseille, avec ses victoires, ont perdu encore bon nombre de joueurs sur blessure et cela risque de causer dommage pour les deux derniers matchs qui est championnat à faire.
On sait qu'ils avaient commencé avec Payet.
Payet aussi.
Payet déjà, et puis là, toute la liste qui s'est allongée sur le match-là, ça commence à faire beaucoup pour Marseille. Et vont-ils avoir les ressources nécessaires pour continuer?
Alors, j'ai envie de te taquiner un peu. Tu dis dommage, mais comme ils vont jouer Rennes dans leur au stade du Horizon Park le prochain match, je pense que ça t'embête, mais ça te fait sourire en même temps, quoi.
Bah, c'est un mal pour un bien pour nous, mais après, le sport, ça reste le sport, et puis.
Donc Rennes en stand-by puisque un match en moins. On va parler d'un adversaire qui revient à fond dans la course. Jérém, c'est Monaco.
C'est Monaco qui là a réussi la passe de 9 matchs d'affilée que des victoires et se remplace 3ème de Ligue 1 juste derrière Marseille. Et Monaco finit en roue libre ce championnat avec de très belles performances,
très grand toi Béli.
Notamment de Aurélien Tchouaméni qui s'est fait 4 matchs où il impose au milieu de terrain toute sa classe et sa grandeur. Mais jusqu'où va aller Monaco?
Tchouaméni qu'on pourra observer certainement à la Coupe du Monde.
Oui, visé par les plus grands clubs européens l'année prochaine, comme Liverpool ou le Real.
Bon, attention à ne pas se brûler les ailes trop vite parce que c'est un joueur très jeune. Hein.
Oui, enfin, bon, il a déjà 22 ans quand même. Hein.
Le dernier qui était jeune, qui est parti de Monaco, il ne brouille pas trop mal, il s'appelait Mbappé. Ouais, mais c'est surtout aussi que Monaco a le calendrier, je vous dirais, le plus facile de cette fin de saison. Donc, logiquement, ils ont une grande chance de finir 3ème. C'est presque sûr. Bah, et pourquoi pas 2ème s'ils gagnent tout.
Et c'est moi, je vois bien, sans parler de que je suis rennais, mais le classement, c'est Monaco, Rennes, Marseille, Zaire.
Marseille joue
ça peut aussi.
Rennes, puis Strasbourg. Pour les derniers
Strasbourg, ça va être dur pour accrocher un strapontin Ligue des Champions quand même.
Mais pour la Ligue Europa.
Oui, pour la Ligue Europa, je te parle pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, on a Paris, et puis après, il y a 3 équipes qui peuvent encore y prétendre.
Et on sait jamais.
Marseille, c'est sûr. Bien qu'il faudra voir le goal average particulier entre. Maintenant, ça sera ça sera du en face à face. Rennes peut effectivement, grâce à son goal average, s'emparer de la 3ème place.
Voilà.
En cas de double faux pas
de Marseille.
C'est vraiment un point de plus, le goal average de Rennes.
Ah, complètement. Hein. On rappelle plus 41, donc ça fait un point. Rennes a actuellement 63 points. En cas d'égalité.
Mais avec un match en point.
Un petit prono pour le match de mercredi, Jérémy?
J'irai 2-1 pour Rennes.
Alors moi, je pense qu'il y aura au moins 6 buts.
Pour Rennes.
Ah non, ça va être équilibré. Nantes va gagner.
Mais Nantes ne fera pas de cadeau à Rennes malgré sa place européenne assurée. Bah, hein.
En fait, l'idée, ça sera soit l'idée de continuer puis d'enfoncer un peu Rennes avec le fait de la Coupe de France, on l'a gagné, machin chouette, de gagner le derby. Soit c'est le relâchement de la pression, tout ça, et à ce moment-là, tu pourrais perdre.
J'y crois, mais je crois que les supporters seraient un peu vexés. Le jour de la présentation de la Coupe. Et puis, surtout qu'on a annoncé beaucoup, beaucoup de Rennais venir voir ce match. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit duel entre amis de supporters. Donc, du coup, ça va faire monter la sauce. Et
comme Rennes a eu quelques jours de plus pour bien se préparer et bien finir sur ce derby-là, plus d'ailleurs pour ce Marseille. Je pense que Rennes va aller en route.
Ils vont tenter tout pour le tout pour venir gagner à Nantes, voilà. Ça c'est clair.
Allez, on parle du bas du classement. J'ai définitivement sauvé après avoir rossé Bordeaux 4-1.
C'est ça.
Exactement.
Donc pour Bordeaux, par contre, ça sent pas bon.
Hein. Bah, dernier.
Dernier. Et dès mercredi, selon le match entre Nice et Saint-Etienne, si c'était une guerre contre Nice, Bordeaux officiellement en Ligue 2.
Bon, le projet Lopez, alors, c'était vraiment de la daube. Hein.
Du flan.
Mais non, c'est parce qu'il veut descendre.
C'est un projet Ligue 2.
Il veut descendre l'année prochaine pour plus facilement remonter l'année d'après.
Mais après, le truc, c'est surtout, voilà, il y a un mauvais choix de coach. Enfin, un choix qui n'est pas pertinent dans la durée pour construire quelque chose sur ce soi-disant ce qu'il nous avait vendu comme, comme projet. Après, il faut se rappeler qu'il rachète avec très peu de sous, puisqu'il emprunte les... Il a emprunté 7 millions pour acheter Bordeaux. En gros, qu'il a acheté 7 millions. Quoi. Enfin, je ne sais plus comment est l'histoire, ouais, mais c'est un peu foireux l'histoire. Donc, à voir. À ouais. voir. Mais je pense qu'il y a besoin de reconstruire quelque chose de plus stable. Peut-être que ça peut rester avec Lopez, mais il va peut-être falloir des gens qui le surveillent, qui l'accompagnent, qui le...
Bon, le gros coup du week-end est pour Metz. Hein. 3-2 face à Lyon. Metz qui se donne le droit d'y croire encore.
C'est ça, tout à fait pour Metz. Beau match de, combatif de, pour les Messins. Dommage pour Lyon, qui peut dire adieu à l'Europe cette année. Mais les Messins se sont battus jusqu'au bout pour, dans ce match-là pour maintenir leur chance en Ligue 1.
Oui, puis ils étaient chez eux. Hein, donc ouais. ils avaient à cœur de gagner ce match.
Moi, j'ai envie de dire, Messi, il le faisait.
Ça, mais pour Metz, c'est encore jouable pour eux de se maintenir encore en Ligue 1 grâce à la différence de points.
La différence qui, de but aussi, oui.
De but qu'il y a par rapport à Saint-Etienne, par exemple. Où,
ils sont favorables. Favorables à Metz. Pour en cas de victoire de Metz, défaite de Saint-Etienne, ils passent devant Saint-Etienne.
C'est ça.
Ça serait quand même incroyable de voir Saint-Etienne et Bordeaux en Ligue 2.
Oh, ça me ferait plaisir.
Et gros, ouais. ça me ferait
plaisir personnellement.
Oui, voilà, mais toi, ça te ferait plaisir parce que tu aimes bien Lyon. Moi, ça me ferait plaisir parce que les deux rivaux historiques de Nantes, c'est Saint-Etienne dans les années 70, Bordeaux dans les années 80.
On leur dit au revoir.
Ouais, et puis aller réapprendre l'humilité, on va dire. Voilà. L'humilité, parce que tous les deux, ils en ont besoin, je crois.
Bon, pour finir sur les mal classés, Lorient a besoin d'un point pour se sauver. Hein.
Oui.
Donc, avec un déplacement à Bordeaux et une réception de 3, c'est faisable pour les Merlus.
Oui, parce que 3 est sauvé, donc peut-être que 3 lâchera le match.
4 clubs, hein, 4 clubs qui se battent pour... ne pas descendre. Allez, on en a fini avec la page football. On va passer sur le handball. C'est H-Time.
H-Time. Money Time. Toute l'actualité du HPC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, infos, interviews. H-Time. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le H et malheureusement pour les Violets, pas de miracle à Magdebourg pour le H, battu de 2 buts, 28-26. Mais le match a été bien plus compliqué que ça pour les Nantais. Hein.
Exactement, puisque Nantes a pris, fait un bon début, mais perd un petit peu au fur et à mesure du match. L'écart se creuse, il va même être porté jusqu'à plus 7 ou plus 8, j'ai plus le détail en deuxième mi-temps. Et là, on se dit, ça va être un naufrage complet.
Et oui, puis... en plus du handicap de 3 buts à remonter, ça faisait plus de 10 de différence. Puis finalement, c'est Magdebourg hein, qui baisse le pied puisqu'ils avaient vraiment la victoire en vue. Le H limite la casse, mais c'était une troisième défaite de rang pour les Violets. Hein.
C'est ça. Et qui les Violets sont bien remis en place contre Limoges, justement. À Limoges, on va les battre en 31-23.
Ouais. Une belle victoire de 8 buts pour les Violets qui doivent conserver absolument cette deuxième place s'ils veulent entrevoir la Ligue des Champions l'année prochaine à la H Arena. Dans le même temps, Aix s'est défait de Chartres, difficilement 32-28. Sur l'agenda pour les Nantais, c'est le 20, la réception de Cesson, deux points obligatoires.
Et pour la revanche du match aller où Cesson avait battu le H.
En plus, oui, les deux points qui pourraient nous manquer en fin de saison, Jean-Marc, comme on l'a évoqué déjà il y a 8 mois.
Oui, non, mais ça, on en avait déjà parlé.
On ne pas les récupérer, hein, ceux-là. C'est Montpellier qui va jouer le rôle d'arbitre dans ce championnat, puisque Nantes doit y aller après long match contre Cesson-Rennes. Et Aix les recevront pour la dernière journée.
Oui, et puis entre-temps, il y aura aussi la Coupe de France. Hein, la victoire à aller chercher à Chartres pour aller faire une petite finale. Il y a de grandes chances contre Paris, même si Toulouse a toutes ses chances.
On aura le même public pour voir la Coupe de France de handball à Nantes si les Violets la ramènent.
Alors, ils seront moins nombreux, mais ils seront là aussi.
On espère. On espère. Mais tu sais, Nantes aime bien faire la Coupe de France. Hein. Ça remonte.
Oui.
Le H a gagné une fois la Coupe France. Mais et deux fois la Coupe de la Ligue.
Oui. Et bien, dont cette année. Donc, si on pouvait ramener les deux coupes, ça serait déjà bien.
Et ce serait une belle saison.
Malgré
la défaite en Europe, au moins, ça
va. Si tu finis deuxième et que tu gagnes les deux coupes, tu t'es fait éliminer par le champion d'Europe, même le meilleur club du monde, Magdebourg. Donc
voilà,
c'est honnête.
Ce serait honorable pour eux.
Ouais, et puis un groupe déjà compact d'European League pour le FC Nantes. Et derrière, il fallait faire le HBC Nantes. Et derrière, il fallait faire le ménage avec Berlin d'abord et Magdebourg derrière. La marche était un peu haute pour une équipe.
Tout à fait.
Bien usé par sa saison. Hein.
Oui. C'est aussi le fait de jouer beaucoup de matchs quand même. Hein, ça...
Et puis pas énormément de profondeur de banc à Nantes avec quelques blessés déjà. Hein,
c'est un petit peu ça qu'il aura manqué. Il aura peut-être manqué à Magdebourg, c'est Kirill Lazarov qui n'était pas là au match retour.
Oui, Lazarov n'était pas là effectivement. Cavalcanti.
Oui, donc on aura peut-être manqué aussi de hauteur et de puissance de bras derrière. Donc. Moi, je dis déjà, c'est un beau parcours d'avoir perdu contre Magdebourg. Et puis, voilà. Après, là, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas perdu avant la défaite d'Aix. Donc, je te dis.
Voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit hein, en allant gagner à Limoges.
Beaublanc. Et puis, c'est surtout l'équipe qui nous avait battu l'année dernière. Limoges avait battu Nantes alors qu'ils venaient de monter en Star League. Du coup, il y avait une petite revanche là-dessus à prendre, donc je trouve ça très bien.
Allez, on enchaîne avec les filles, avec les Neptunes. On reste sur le handball, on parle de nos filles qui avaient besoin de points pour aller chercher la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Du coup, les filles qui ont enfin battu leur bête noire en championnat et en coupe nationale,
oui.
C'est Chambray qui les avait beaucoup embêté cette année, et là... Victoire obligatoire pour Nantes pour avoir leur place en Europe officielle contre Chambray, la bête noire. Et c'est chose faite, victoire 29-25.
Je me suis arrêté à 28-24.
Non, c'est 29-25. Et du coup, belle victoire des Nantaises qui, pourtant, le match avait assez mal démarré.
Mauvaise entame encore.
Voilà, mauvaise entame, comme d'habitude, beaucoup d'erreurs de balle en défense. Chambray qui mène à plus 2 voire même plus 3, et après d'ailleurs Karim Strombag a remis le
métronome.
Voilà, a remis le coucou dans l'affaire, et puis finalement les Neptunes ont réussi à gérer ce score là, pour un moment donné mener plus 5 voire même plus 6 pour un petit moment, et c'est réduit après à plus 4 plus 5.
Qu'est-ce qui a brillé en deuxième côté Nantais?
Surtout Hagman comme d'habitude.
Oui, mais un petit peu moins, parce qu'en fait, ouais, elle a surtout marqué beaucoup de jets de 7 mètres. Moi, celle qui m'a beaucoup plu, mais toi aussi, c'est Naïmi Ardouin, qui après avoir touché deux fois les poteaux sur des tirs magnifiques, a fini par trouver le cadre. Et elle a fait une très très belle prestation.
Et fini à 3-6.
Exactement. Il y a Crackball qui a fait aussi une belle prestation, la danoise.
Ouais. Bah, tu me parlais de Naïmi Ardouin, on va l'écouter. Tout de suite, elle était au micro de Prune.
Naïmi, félicitations pour ton match d'aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Et aussi, même sur ta saison où t'es monté en régime tout au long de la saison à prendre de plus en plus de place dans cette équipe, je pense que l'année prochaine, tu vas prendre encore une place encore plus majeure dans l'équipe d'ici.
Oui, plus ou moins. Donc là, c'est vrai que cette année, j'ai eu mes chances avec l'équipe première, mais j'ai réussi à la saisir et c'est vraiment super parce que j'ai pu montrer à l'équipe, comme au club et à moi-même, que j'étais capable de faire de bonnes choses. Et l'année prochaine, il y a l'arrivée de Marine Dupuis qui fait que moi, je serai donc 3e ailière.
D'accord.
Donc je vais sûrement, je reste toujours au centre de formation parce que c'est ma dernière année de convention. Et du coup, je risque de sûrement descendre avec l'équipe réserve, la National 1. Mais ça ne m'empêchera pas de, je pense, m'entraîner de temps en temps avec l'équipe première. Et s'il y a des blessures, je serai toujours là au cas où pour venir renforcer.
D'accord. Et puis du coup, si bien sûr il y a, tu pourras peut-être à nouveau jouer des matchs en européen.
Oui, c'est ça exactement. Non, mais vraiment, c'est je reste dans le club et le club, il a des bonnes ambitions. Donc je pense qu'il faut voir sur un avenir un peu plus lointain que l'année prochaine et se dire que il y a des bonnes opportunités qui vont s'offrir à moi. Et si je continue à travailler, peu importe dans quelle équipe je suis, j'arriverai à avoir des belles chances, je pense.
Ça marche en tout cas, et ta marge de progression est énorme, et du coup continue comme ça à bosser et tout ira bien.
Merci beaucoup.
bien, bonne soirée à toi.
Merci. Salut.
Voilà les Neptunes qui font le pari de la jeunesse. Avec, on l'a dit, oui, une internationale qui pose ses valises sur les bords de Loire l'année prochaine.
Exactement. Dans les joueuses qui arrivent, donc tu as Marine Dupuis. Tu as aussi Léna Granvaux. Bel espoir de l'équipe de France.
À quel poste, Granvaux?
Granvaux, elle est arrière, mais je ne sais plus de quel côté. Et du coup, elle arrive de Bourg-de-Péage. J'ai plus le nom de la troisième joueuse, mais belle montée en puissance. J'ai eu l'occasion de discuter avec Floriane André. Je ne sais pas si tu as reçu.
On va l'écouter tout de suite.
On va l'écouter parce que moi, je voulais savoir son retour sur sa première expérience avec l'équipe de France et son premier match contre l'Ukraine.
Allez, on écoute Floriane.
Cette saison aura changé beaucoup de choses dans ta vie puisque tu auras eu ta première sélection avec l'équipe de France, ta première titularisation contre l'Ukraine, un match pas banal.
Oui, tout à fait. Déjà, juste en termes de compensation, c'était pas banal parce que c'était l'Ukraine et on sait dans quoi elles sont en ce moment, donc on sait que c'est compliqué. Donc déjà, juste en termes d'ambiance, c'était différent des autres matchs. Après, c'était un match... je pense qu'on l'a toutes pris, moi aussi en particulier, de prendre comme un match normal, que c'était... Même elles ont dit, de toute façon, on joue chaque match comme si c'était le dernier, donc on l'a pas pris à la légère, on a tout donné et on est ressorti avec une victoire.
Et la preuve, c'est que tu as fait comme d'habitude, arrêter un jeu de 7 mètres. C'est vraiment ta spécialité maintenant.
C'est pas le cas aujourd'hui, mais en équipe de France, ouais, c'était cool. Ouais. J'ai fait pas mal de choses qui ont été bien, j'ai arrêté un jeu de 7 mètres, je mets un but. C'est pas trop mal pour une première.
Effectivement, sur le match d'hier, elle avait subi la malice de l'ancienne, très ancienne, Lacrabert, qui lui a mis deux beaux 7 mètres.
Et pour finir ce match, quoi de mieux que de faire à Milan avec Raissa Dapina.
Du coup, bravo pour ce match et cette qualification. Que retiens-tu de cette saison et qu'est-ce qui seront les choses et les points forts et les points faibles à améliorer pour l'année prochaine?
Ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas lâché l'affaire. Hein. C'était une saison très compliquée. On a eu beaucoup de bas, pas la disqualification en Coupe d'Europe, mais on n'a pas pu passer le tour principal, donc c'était une vraie déception. En Coupe d'Europe, c'est pareil, déception aussi de ne pas être passé pour les demi-finales, pour la finale et demi-finales. Et voilà, je pense que la chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à pouvoir se requalifier pour l'année prochaine. Il faut qu'on serve aussi des erreurs qu'on a eues cette année pour pouvoir rebondir et pour éviter de les recommencer sur la prochaine saison, du coup avec des objectifs très forts pour le club.
Ça, tout à fait, et du coup, grâce aussi, je pense, avec la fusion, avec les déferlantes, si je ne me trompe pas, ça va apporter peut-être plus d'engouement et créer ce caractère qui vous valorise, c'est la force du caractère et la rage de vaincre.
C'est exactement ça et puis voilà, on a une identité forte avec les Neptunes, donc super que le volley puisse nous rejoindre aussi dans cette identité. Et c'est vrai qu'on commence à ramener pas mal de monde à Mangin, donc on espère vraiment avoir un gros engouement pour l'année prochaine et pour ce qui nous attend.
Ça marche, je te remercie, bonne soirée à toi.
Merci à toi aussi.
Oui, on espère des noms ronflants hein, pour rejoindre les rangs des Neptunes l'année prochaine.
Alors, oui, il y en a. Alors, chez les filles, alors, du coup, on bascule sur le volet. Il y a l'arrivée de Mims, qui est une Américaine d'un très très fort niveau. Et puis, Zeiger...
Départ de Lauren
Schad qui prend sa retraite.
Déjà, elle est
oui, on
si
est
jeune.
Tous, ouais, tu sais pourquoi? Elle a des gros problèmes de genoux.
Oui.
Et du coup, elle prend sa retraite à... Oui, elle est jeune, j'ai plus son âge, mais elle prend sa retraite. Du coup, va venir la remplacer Ryler Zeiger, qui est internationale française et qui a beaucoup d'expérience. Elle a 33 ans. Elle nous arrive je ne vais pas l'avoir, Florange. J'ai plus le début du...
Terville.
Terville Florange, merci. Et du coup, ça va être intéressant. Donc, le club continue de se grandir, de se structurer autour de ces deux entités. Avant, peut-être, tu as anticipé sur l'avenir, l'arrivée des déferlantes du basket d'ici quelques temps, quand elles seront remontées en Ligue féminine de basket. Et puis, un projet autour de Mangin pour l'instant, puisque après avoir discuté avec le président Johan Chouin-Joubert, il m'a assuré qu'il ne voulait pas de la trocardière, que c'était trop grand, mais qu'il voulait construire l'esprit des Neptunes autour de la salle de Mangin-Beaulieu.
Bah écoute, avec quelques travaux, elle peut être très bien cette salle, mais il va falloir mettre quelques coups de peinture quand même, selon moi. Allez, on en a terminé avec le handball, on passe au reste de l'actu sportive, c'est Multizone.
Money Time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, on va commencer cette rubrique avec des sports méca. On parle de F1, Charles.
Exactement, le grand retour de la F1 ce week-end et notamment aux États-Unis. Excusez-moi.
À Miami.
Pour le retour exactement du Grand Prix de Miami sur ce nouveau circuit tout nouveau qui nous promettait du show à l'américaine, comme disait.
Autour du stade de foot américain.
Exactement.
Le stade des Dolphins.
Exactement.
Et donc on a eu le droit finalement à un Grand Prix qui s'est joué dans les derniers tours suite à une safety car provoquée par Pierre Gasly qui loupe son virage, qui sort de la piste et qui au moment de revenir finalement avec des pneus très froids et très usés vient toucher Lando Norris qui le dépasse sur l'intérieur.
Safety car. Il perd son pneu, il perd tout,
c'est vraiment une grosse collision. Heureusement il touche pas les murs donc ça va. Mais voilà, donc safety car et c'est à ce moment-là qu'avec les pneus durs, bataille entre Verstappen qui était devant, il a dépassé dans le pneu médium sur le premier relais, Charles Leclerc qui était parti en pole position, mais Charles Leclerc avec un déficit de pointe de vitesse en ligne droite n'a jamais réussi à dépasser Max Verstappen. Donc victoire, troisième victoire cette saison du Néerlandais, lui champion du monde en titre.
Qui revient très fort
et qui surtout bah, du coup en dépit de ses déboires mécaniques est toujours présent dans la course au championnat du monde pilote.
Ouais, mais Leclerc est toujours en tête. Parlez-nous de Lewis Hamilton, que devient-il? Mais où est passé Hamilton?
Eh ben, il est passé, il a fait plutôt un bon week-end avec une bonne qualification, il part P6, c'est bien pour lui, hein. On sait que la Mercedes aujourd'hui est un ton en dessous des 4 voitures de devant que sont les duos de pilotes Ferrari et Red Bull. Il se bat notamment avec Valtteri Bottas, avec son Alfa Romeo, hein, son ancien coéquipier de chez Mercedes l'année dernière, donc c'est marrant à voir. Il fait une très bonne P6 et malheureusement il s'est fait avoir au jeu des stratégies et il a vu George Russell notamment lui repasser devant lors de la safety car suite à son arrêt au stand prolongé, lui qui avait mis des pneus hard en début de course pour George Russell alors que des pneus médium pour Lewis Hamilton. Il finit quand même à une P7 P6 parce que Bottas lui se loupe un moment dans les derniers tours.
Bottas qui finit 7ème
et donc Hamilton P6 et Russell P5. Donc malheureusement c'est aujourd'hui ce qui peut attraper de mieux, c'est soit la P5 soit la P6. Aujourd'hui George Russell a eu un peu de chance avec la safety car, il essaye de revenir comme il peut, mais bon c'est compliqué à l'heure actuelle pour Lewis Hamilton de revenir dans le devant de la scène. En plus avec tous ces petits bijoux, ces piercings, la FIA pas contente et tout, sont sur son dos. Aujourd'hui, c'est compliqué pour Hamilton de.
Ouais, ça sera pas pour lui cette année le titre. Par contre, il y a un Français qui a brillé, qui partait en dernière ligne, hein, à la dernière position, et qui arrive à la 8ème place. Ocon sur Alpine.
Et Esteban Ocon, voilà, très régulier, très très bon, très très bon week-end. L'Alpine qui encore une fois est plutôt bien performante. Il part dernier, fait un bon départ, il gagne 3 positions au départ. Et puis après, il essaye et il continue avec un bon rythme et tout. Il finit à la fin 9ème sur la ligne d'arrivée. Alonso, lui, a pris une pénalité suite à un accrochage avec Gasly. Il prend 5 secondes, il finit 9ème. Finalement, post-course.
Ça s'est modifié
avec une pénalité de 10 secondes finalement. Et du coup, il a chuté à la 11ème place.
Ah, dommage.
Donc, Alonso, malheureusement, n'est pas dans les points. Mais du coup, ça fait quand même l'Alpine. Donc, et 8ème. Donc, ça fait une belle.
Ceci dit, sur le début de saison, 5 grands prix de disputés. Alpine, 26 points, c'est pas beaucoup. C'était mieux parti l'année dernière. Je trouve que l'équipe, elle ne progresse pas.
Elle progresse, mais aujourd'hui, le problème, c'est que. Ils n'ont pas encore trouvé ce petit step-up pour essayer de battre les McLaren et les Alfa Romeo, ce qui fait que ça les positionne aujourd'hui en bataille finalement avec les McLaren et Alfa Romeo
vraiment pour rentrer dans les points quoi.
Mais malheureusement c'est souvent pour des accessites entre la 7ème et la 10ème place. C'est difficile d'aller chercher devant, va falloir progresser, va falloir développer. Aujourd'hui qu'on sait c'est une saison avec des nouvelles réglementations, donc c'est un championnat de développement cette année. Qui va le mieux développer, donc qui va être le mieux performant en cette fin de saison? Alpine a son coup à jouer avec un nouveau directeur de course, notamment nouveau directeur d'équipe Otmar Szafnauer. Il faut progresser, mais en tout cas Alpine a quelque chose quand même, ils sont pas non plus à la ramasse comme Williams ou Aston Martin. Va falloir progresser, et ça, c'est on espère pour l'écurie française.
Ouais, sur l'agenda, on revient en Europe dans 15 jours pour la F1.
À Barcelone, ce fameux circuit d'essai.
Allez, on enchaîne avec le cyclisme, le Giro qui est parti ce week-end de Budapest.
Exactement, alors non, ce n'est pas le Tour de Hongrie qui commence mercredi, mais c'est bien le Giro qui a commencé vendredi dernier. On a le droit à 3 belles étapes en Hongrie, comme tu le disais, Matt. Et pour l'instant, Mathieu Van Der Poel domine ce classement général. Avec une première étape qui s'est finie en côte, hein, type un peu mur de Wii, hein, voilà, c'est vraiment une ascension juste finale de 1 km, hein, c'est assez court. Et Mathieu Van Der Poel a fait montrer finalement toutes ses capacités de punch qu'on connaissait déjà bien. Hein. Et résultat, il remporte cette première étape et prend le maillot rose, qui pour lui était un réel objectif. Là où le maillot jaune, il l'a dit, ça reste un objectif, mais c'est plus dans la tradition familiale avec forcément Raymond Poulidor, tout ça, tout ça. Mais là, c'est vraiment un objectif pour lui. Il l'a eu, c'est son premier. Donc, maillot rose pour l'instant. Sur ses 3 premières étapes, il l'a toujours pas perdu. Van Der Poel qui montre que c'est
concrètement, avec sa grande carcasse, il passera pas la montagne.
Non, surtout que demain, on s'envole vers l'Etna. Donc à mon avis là ça va être plus dur, et on sait que derrière il y a des Simon Yates notamment qui a remporté le contre-la-montre de la deuxième étape entre Budapest et Budapest, hein. Bon, c'était un contre-la-montre en côte, hein. Il y a pas non plus, c'était pas du tout plat, mais voilà, donc on a Simon Yates, lui qui est un des grands favoris de ce tour d'Italie, et lui un vrai grimpeur, et Mathieu Van Der Poel, ça va être compliqué pour lui.
Un mot sur les sprinteurs, ça a commencé aujourd'hui, premier sprint sur le Giro et première victoire pour le CAV.
Exactement, hier entre Kaposvár et Balatofürd, et ben on a le droit à un magnifique Mark Cavendish qui s'impose pour la Quick-Step Alpha Vinyl, excusez-moi, et il s'impose une nouvelle fois, c'est assez rarement parce qu'il avait déjà gagné Milan-Turin cette saison en Italie, et là il gagne sur le Giro, lui qui était enflammé le Tour de France l'année dernière, il revient au premier plan depuis la saison dernière. C'est magnifique, Cavendish qui finit notamment devant Arnaud Démare, le français qui...
Démare qui avait animé tous les sprints l'année dernière, on s'en rappelle.
Ah bah oui, on s'en souvient, il avait remporté le maillot
étapes,
hein. Chiclamen notamment. Et là, malheureusement, il a tombé sur un Mark Cavendish requinqué comme jamais, et à mon avis, il risque de faire une belle moisson de victoire cette saison encore une fois, cette année encore, sur un grand tour. L'année dernière, c'était le Tour de France, cette année, ça risque d'être sur le Giro.
Ce qui devait être magnifique, c'est les images, puisque c'était autour du lac Balaton.
Mmh. Ah bah ici, on a eu le droit à des belles images en Hongrie. Hein. C'est pour ça que souvent, bah, y a une année sur deux, ça change. Soit on part d'Italie et on part...
On était parti d'Israël il y a 3 ans,
si ma mémoire est bonne. Il y a eu Israël et tout récemment, il y avait eu d'autres...
Le tour part du Danemark, hein, pour ceux qui l'ont oublié. Hein, donc nous aussi, on reste dans la tradition d'exporter nos grands tours à l'étranger.
Un peu plus pour la France, c'est à peu près tous les 5 ans.
Pour la France, c'est une année sur deux. Une année sur deux, on part à l'étranger.
Allez, on parle de rugby, ouais. Les Coupes d'Europe.
Et ben en rugby, on a eu le droit à surtout un fabuleux, un magnifique match entre Toulouse et qui était au Munster. C'était un magnifique...
Avec sa séance de pénalité, et ça, c'est pas comme les tirs au but, c'est extrêmement rare, hein. Je crois que j'en ai jamais vu. Hein.
Alors la dernière, de souvenir, c'était entre Biarritz et Bayonne pour l'accessite en top 14 l'année dernière. C'était vraiment le fameux barrage entre le 13e de top 14 et le deuxième
Bayonne de folie. Ouais.
Exactement. Et là, on a le droit à une nouvelle séance de tir au but, déjà avec un match de feu. Hein,
Foufou,
complètement. Toulouse qui commence très bien avec un essai. Et là, il mène 7-0. Le Munster revient très fort. Et à ce moment-là, il y a 14-14. On sent le Munster se détacher avec un 24-14 à un moment donné à la 70e,
poussé par l'arrêt d'Army.
Exactement, ils étaient encore très nombreux, une chaude ambiance, hein, là-bas.
Oui, et c'était à l'Aviva Stadium, du coup c'était 50 000 personnes. Et c'est ce que va retrouver Toulouse, puisqu'il va retourner à l'Aviva Stadium contre le Leinster.
Le Leinster, exactement. Et résultat, Mathis Lebel, cadrage débordement, il a mis à terre son adversaire, il va mettre cet essai transformé par Thomas Ramos. Puis la pénalité à 3 minutes de la fin de Thomas Ramos, égalité. Pendant les prolongations, on a le droit à un drop de Thomas Ramos qui est passé juste à côté. De même à la dernière minute des prolongations du côté du Munster, séance de tir au but. Malheureusement pour le Munster, Connor Murray et notamment Ben Healy se sont surtout loupés.
Oui, parce que c'est pas toujours le même tireur.
Non, exactement, il y a 3 tireurs, donc pour Toulouse, il y avait notamment Antoine Dupont, Romain Tamac et Thomas Ramos, à savoir qu'en fait, c'est pas tout le temps au centre. On tire une première fois au centre, une première fois à droite, une première fois à gauche.
Ah, c'est pas 5 tireurs comme au football ?
Non, il y a que 3 tireurs. Il y a 3 tireurs, il y en a 6 en tout. Enfin, 6.
Tu espérais voir les piliers tirer. Non
ça a été sympa, ça.
Ils tirent à 14 et 22 mètres, je crois.
C'est ça, il y a première fois, c'est, donc c'est deux, c'est plus, comme tu dis, à 14, enfin, une vingtaine de mètres, hein, donc c'est plus près. Puis, une fois les 3 premiers tirs passés, tu passes donc, plus loin, autour des 35-40 mètres, avec du coup. Bah pareil, au centre, à droite, puis à gauche. Et là, malheureusement, au jeu, à droite, Benilly loupe ses deux coups de pied. Connor Murray loupe celui, notamment celui à gauche, le deuxième à gauche. Et résultat,
c'est plutôt comme à la pétanque, alors.
Exactement.
Hein, le tir de précision.
mais ça demande beaucoup de précision, alors que du coup, les Toulousains n'en ont pas loupé. Qui sont qualifiés au tir au but et ils recevront du coup ils iront au Leinster. Dans le même temps, on a eu le droit aux qualifications de La Rochelle et du Racing. La Rochelle qui s'est défait de Montpellier, le Racing de Sale. Résultat, on aura sans doute peut-être encore une finale franco-française bis repetita.
À condition que le Leinster ne gagne pas ses deux derniers matchs.
Oui, on verra.
Mais c'est bon, Toulon en Challenge Cup rejoint également Lyon et les demi-finales grâce à sa victoire sur les London Irish 19-18.
C'était serré.
Jusqu'à la dernière minute et la transformation ratée par les Londoniens. Toulon qui retrouve Lyon en demi. Lyon qui s'est aussi qualifié en se débarrassant des Écossais de Glasgow. 37-27. Ça fait 5 sur 8 pour les clubs français en Coupe d'Europe cette année.
Ah bah ça va être
5 sur 8 en demi. Hein.
Exactement. Et du
magnifique
coup,
le rugby français. Toujours le au top.
Toujours au top.
Les clubs européens. Tout va bien.
Exactement. Et du coup, les quarts de finale du challenge européen, on a le droit à un Saracens Wasp et un Lyon-Toulon du coup en demi-finale. Donc un club français en finale du côté du challenge européen. Ça c'est sûr. La victoire, on verra bien.
Allez, on enchaîne, on parle de tennis et ça continue pour Alcaraz.
La moisson d'Alcaraz cette saison, c'est incroyable.
Sixième au classement ATP.
Il progresse. En mai dernier, vous savez combien il était au classement ATP ?
112.
140.
140.
140e, 141e exactement, c'est dans mes très bons souvenirs. C'est pour dire, c'était il y a un an pile. Et là, il enchaîne Rio, Masters 1000 de Madrid.
Non, Indian Wells, c'est Indian Wells d'abord.
Du coup, Indian Wells, excuse-moi, ATP de Barcelone. Puis là maintenant le Masters 1000 de Madrid.
Quatrième victoire cette année. C'est le Scottie Scheffler du tennis.
Exactement.
Inconnu quasiment l'année dernière et puis bientôt numéro 1 mondial.
Révélation du tennis. Et aujourd'hui, il part légitimement en tant que favori de ce Roland-Garros. Il ne fait pas le Masters 1000 de Rome qui débute, où là on aura Djokovic et Nadal. Lui, il se préserve hein, parce qu'il enchaîne quand même. Donc on aura le droit sans doute à un grand favori. Il a battu notamment Djokovic en demi-finale.
Et Nadal, justement.
Et Nadal en quart de finale. Ça a été incroyable. Actuellement où il est, au vu des préparations de Djokovic qui ne fait que revenir et Nadal aussi, il se pourrait que ça soit le grand favori pour Roland Garros. Il le dit lui-même qu'il se sent prêt à gagner un grand chelem. On attend de voir ça.
Ouais, parce que Dominic Thiem, qu'on présentait comme le successeur de Rafa Nadal, est en perte de vitesse depuis 2 ans. Là.
Depuis US Open 2020 qu'il a remporté, c'est fini. Il est vraiment en perdition. C'est vraiment terrible pour lui, alors qu'il était sans doute celui qui était le plus grand favori à la succession de Nadal. Il avait fait quand même 2 finales, hein, notamment, donc c'est pour dire. Et bah là, pour l'instant, il est pas présent.
C'est dommage pour l'Autrichien. Qu'est-ce qu'on développe ? On a des résultats sur Rome. Ça a commencé ce matin.
Hein. Ah oui, si, je voulais te dire. Belle victoire de 11 Jabeur, la Tunisienne.
Aussi, sur le Masters 1000 de Madrid.
Sur le Masters 1000 féminin.
De Madrid aussi. Première africaine à remporter le Masters 1000 de Madrid et un Masters 1000.
Septième place à la WTA pour elle aussi. Hein.
Elle ne fait que progresser ces 2-3 dernières saisons. Pour l'instant, elle montre qu'elle est présente. On sait qu'elle est en plus très performante, notamment sur terre battue. Elle sera favorites.
Petite pièce pour moi pour elle sur Roland-Garros.
Elle sera une des favorites avec Iga Świątek notamment et pourquoi pas aussi Barbora Krejcikova, finaliste et vainqueur de Roland-Garros l'année dernière.
Ouais, comme tu l'as dit, pour l'Afrique, c'est une première. Hein. On l'avait eu en vélo avec Guirmay, l'Éthiopien.
Guirmay, qui en plus a fait une nouvelle deuxième place là, sur la première étape de ce Giro. Donc il est encore présent, maillot blanc. Donc c'est impressionnant.
Mais le renouveau des athlètes africains dans des disciplines où on ne les attend pas. Allez, on termine avec un mot de golf. On était au Wells Fargo. Jean-Marc, tu nous l'as rappelé. Paul Barjon était troisième à l'issue du premier tour. Il avait rendu une carte de moins 5.
On peut dire qu'il y avait la même ambiance qu'après la victoire des Nantais que pour la qualification. Pour que le passage de cut de Paul Barjon.
Mais Paul a quand même passé le cut le vendredi pour s'écrouler le week-end. Il finit 51e. Il occupe la 171e place à la FedEx Cup, loin pour l'instant de jouer les playoffs. Mais sait-on jamais. Le Wells Fargo, Max Soma qui remporte donc le tournoi américain.
Est-ce que voilà. Je vous donne quelques résultats des sports locaux quand allez, même
hein, on n'a pas fait, de, mais on doit en avoir quelques-uns.
Hein. Allez, voilà, t'as tout compris. Eh bien, on va commencer par du rugby, puisque c'est les 16e de finale de Fédéral 2. Et la belle victoire en match aller du Stade Nantais 35-19 qui vous donne rendez-vous dimanche prochain au Stade Pascal Laporte pour le match retour. Venez nombreux, ça sera la fête. Et ça va augmenter dans les... Dans les niveaux des équipes, hein, l'objectif, puisque si Nantes gagne, sera assuré de monter en Fédéral 1, déjà, il faut le savoir qu'il fallait gagner ce match aller-retour. Et derrière, ça sera l'objectif d'essayer d'aller chercher le bouclier de Fédéral 2. Autre sport, autre ambiance, on va rester sur le positif. L'Hermine de Nantes est sauvée après ses victoires. 74-66, c'était dans la semaine. C'était contre
Aix-Maurienne.
Et puis.
La grosse surprise, c'est une belle victoire qui fait du bien.
Et puis, deuxième victoire à Chalon. 91-86. Là-bas en plus. Hein.
Là-bas en plus.
Du coup,
au classement,
les Nantais sont repassés à la 13e place.
Exactement.
Et en cas de victoire, ils vont jouer Saint-Vallier. Avec qui ils sont ex-aequo ?
Au dernier match, à domicile.
Dernier match à domicile, j'ai plus le jour, c'est tout bientôt.
Ça va être rapidement.
Et en cas de victoire, ils peuvent aller chercher au mieux la 10e place.
Donc c'est pour dire, ça pourrait être vers les 3 derniers matchs, 3 dernières victoires, ils passeraient de l'avant-dernière place à la 10e place.
Exactement.
Donc, c'est pour dire, c'est serré quand même.
En tout cas, on est content, ils sont sauvés.
Oui.
Donc ils vont rester à la trocardière. Où il risque d'avoir un nouveau voisin pour partager la salle, puisque ça devrait être selon toute vraisemblance,
le NRMV.
Le NRMV, les volleyeurs qui eux continuent le parcours de vacances. Hein, ils font tourner pour la fin de ces playoffs, puisque puisqu'on sait que c'est Cannes qui va descendre, hein, trop d'écart. Nantes qui a fait tourner, Hubert Hainaut fait tourner. Du coup, c'est l'équipe de Sergio Noda Poitiers qui l'emporte 3-7-1. Et l'autre bonne nouvelle en volet, on aura notre derby puisque c'est fait. Saint-Nazaire va monter.
Victoire 3-0 en play-off en
exactement,
finale.
Contre Saint-Quentin. Donc, on aura des super derbies à la trotte.
Qui descend du coup
Qu'est-ce qui descend? J'ai dit c'est Cannes. Ouais. Et le début des finales a commencé et Tours a été battu dans sa salle par Montpellier.
3-2.
Et on félicitera le voléro Le Canet qui a gagné un superbe titre chez les féminines en battant Mulhouse en 2 matchs. Et je crois que j'étais complet pour ma part, oui. L'événement, l'autre événement de hier après-midi, le FC Nantes qui recevait le VGA Saint-Maur. Avec un très beau match des Nantaises. Premier but d'Hilary Diaz qui venait en remplacement de Charlotte Lorgeret en défense centrale sur une superbe tête à la 33e minute. Deuxième but à la 41e, c'est Anaëlle Lemoguedec sur un compte qui part toute seule au but et qui marque. 51e, c'est Roselyne Eloissant qui part aussi en contre et qui marque. Et puis Anaëlle Lemoguedec va doubler sa mise après un cafouillage dans la surface. Elle marque le 4e but des Nantaises. On se dit c'est chouette. Surtout que quand on voyait le scénario du Havre à ce moment-là, mener 2-0 tout d'abord à Lille, puis juste avant la mi-temps, reviennent à deux partout, prennent l'avantage sur un but contre son camp des Lilloises. 3-2 pour Lille, on se dit c'est foutu, c'est cuit. Et puis Lille va égaliser à la 82e, on se dit chouette, on va repasser devant. Et à la 90e, Le Havre l'emporte 4-3, un scénario improbable qui a laissé les pauvres Nantaises dans un état de désolation totale. On rappelle qu'il reste une journée, toujours un point d'avance pour les Havraises, qui vont malheureusement pour nous recevoir Vendenheim, équipe qui est déjà reléguée, alors que les Nantaises iront se déplacer à Lens pour ce dernier match, qu'elles essaieront malgré tout de gagner, parce qu'on ne sait jamais.
Parce que le sport,
si Le Havre n'arrive pas à marquer un but à Vendenheim et que Nantes l'emporte, et ben Nantes monterait en D1.
Et ben on le souhaite. Et ça sera le mot de la fin, car il est 20h, on parle sur Prune de
NBA.
Basket, on parle de NBA, c'est les potes de passage en force. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Salut à tous.